France Culture.
Le journal est signé Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, témoignage d'une élève infirmière gazaouie après une nuit de bombardement israélien sur la bande de Gaza en violation du cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre, plus de 100 morts selon un dernier bilan. La réduction des effectifs militaires américains sur le front oriental du continent européen, la défense du flanc est de l'Europe restera robuste, lâche un membre de l'entourage de la ministre française des Armées, Catherine Vautrin. Des législatives aux Pays-Bas en guise de sonde, des populismes à l'œuvre en Europe, correspondance de Fabien Cazot à Amsterdam. Le spécialiste des modèles d'intelligence artificielle OpenAI change ses statuts et renouvelle son entente avec Microsoft. Quelles conséquences? Nous écouterons Valentin Grille. Un rapport publié aujourd'hui par le Lancet révèle et chiffre les effets néfastes sur la santé humaine des vagues de chaleur et de la pollution. Précision d'Azaïs Perronin. Enfin, Quentin, vous l'avez évoqué, le casse du Louvre. En fin d'édition, avec Mathilde Cariou, nous ferons le point sur l'enquête, effectivement, selon la procureure de Paris. Les deux hommes interpellés samedi ont partiellement reconnu les faits. Il y a les propos de l'ONU qui jugent épouvantable le bilan des récentes frappes israéliennes à Gaza en moins de 12 heures. La nuit dernière, au moins 101 morts ont été transportés dans les hôpitaux, dont 35 enfants, des femmes, des personnes âgées. Information livrée par un porte-parole de la Défense civile, une organisation de secours opérant sous le contrôle du Hamas. D'autres sources confirment ce bilan. Najma, 23 ans, étudiante en soins infirmiers, a vu à nouveau sa vie basculer, déplacée à plusieurs reprises au cours des deux dernières années. Elle vit aujourd'hui avec sa famille à Ran Younes, où les bombes se sont abattues. C'est là que notre correspondant à Jérusalem, Lucas Lazo, a pu la joindre.
C'est en rentrant hier soir de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Khan Younes, où elle prête main forte comme elle peut à des médecins déjà débordés, que Najma a été de nouveau rattrapée par la guerre.
Life wasn't easy yesterday for me.
Hier, la vie n'a pas été facile pour moi. J'ai été surprise, la situation semblait calme, mais soudain tout a basculé. C'était comme un brasier, des combats, des bombardements à nouveau. J'ai eu l'impression d'être dans un film d'action. Comment cela peut-il arriver? Pourquoi? Donnez-moi des raisons précises. Qui pense aux 100 personnes qui ont été tuées hier?
What about 100 person was killed yesterday?
Et pourtant, malgré la stupeur, après deux années de guerre durant lesquelles elle a tout perdu, sa maison, ses grands-parents sous ses yeux, plus grand-chose n'étonne Najma.
Je ne suis absolument pas surprise par ce que les Israéliens ont fait hier. En tant que palestinienne de Gaza, je voulais dire que chaque fois que nous commençons à ressentir un peu de sécurité, il y a une violation du cessez-le-feu. Où est l'humanité quand on parle de cessez-le-feu? Où sont les dirigeants qui nous avaient promis de protéger les civils palestiniens?
Donald Trump, le président américain censé garantir le cessez-le-feu, a apporté son soutien à l'offensive israélienne, invoquant le droit d'Israël à se défendre. Najma, résignée, n'attend plus grand-chose de la communauté internationale.
Nous ne demandons rien, nous voulons juste un peu de paix intérieure, nous ne voulons plus de bombardements, nous ne voulons plus que l'on nous tue sans raison, je ne sais pas où aller, où les Palestiniens devraient-ils aller, que devons-nous faire?
Ce matin, une fois le calme revenu, Najma, qui ne s'imaginait pas devenir infirmière avant la guerre, est retournée prêter main forte aux médecins de l'hôpital de Khan Younes.
Et l'armée israélienne affirme avoir mené des frappes contre des dizaines de cibles et visé 30 chefs de mouvements armés. Le premier ministre du Qatar, dont le pays est l'un des médiateurs dans le conflit entre Israël et le Hamas, déclare s'attendre à ce que le cessez-le-feu dans la bande de Gaza soit respecté malgré une violation. C'est le terme choisi pour nommer les frappes israéliennes de la nuit dernière. L'Organisation mondiale de la santé réclame un cessez-le-feu au Soudan après des informations sur le meurtre de plus de 460 personnes dans une maternité à El Fasher, ville prise par les paramilitaires en fin de semaine. L'ouragan Melissa, le plus puissant à toucher terre en 90 ans, a causé des dégâts considérables à Cuba, selon le président de l'île, et tué sur son passage au moins de 20 personnes en Jamaïque, République dominicaine, à Panama et surtout Haïti, où des recherches de disparus sont en cours. Mériac Roque Massarin a pu entrer en contact avec des Jamaïcains.
C'est la partie ouest de l'île qui a été la plus touchée. Damian Gordon habite à Treasure Beach. Son restaurant a été entièrement détruit, mais pour lui, ce n'est rien comparé aux pertes de ses voisins.
On doit d'abord essayer d'aider les autres. Le restaurant et le bar peuvent encore attendre. Plein de gens ont perdu le toit de leur maison. Plein de gens ne savent pas où ils vont dormir ce soir. Donc on doit juste essayer de répondre aux besoins les plus urgents, c'est-à-dire trouver des abris et de la nourriture. C'est la priorité avant de penser au business.
La priorité dans cette partie du pays, c'est également de retrouver l'électricité et du réseau téléphonique. Claude Mills habite à l'est, à Kingston, la capitale. Il s'inquiète pour ses proches qui vivent là où l'ouragan a fait le plus de dégâts.
Nous sommes très inquiets. J'ai une cousine qui vit à Bress River. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis plusieurs heures. J'ai aussi des amis à Sainte-Élisabeth pour qui je me fais beaucoup de soucis. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles. Ils n'ont pas de téléphone, pas d'électricité, pas d'eau.
Au lendemain du passage de Mélissa, la ville de Kingston, moins touchée, se prépare à accueillir les sinistrés. Jacqueline Knight y habite, elle travaille dans le...
Nous sommes déterminés, selon moi. Vous voyez, le soleil est revenu à Kingston. Les hôtels sont complets. La plupart d'entre eux resteront gratuits pendant l'ouragan, donc nous sommes résilients.
Si la Jamaïque est habituée aux tempêtes tropicales, l'ouragan Mélissa est le pire que l'île n'ait jamais connu.
Précision de Myriam Roque-Massarin. Des scènes de guerre avec au moins 132 morts dans l'opération policière la plus meurtrière de l'histoire de la ville de Rio. Opération lancée contre l'un des gangs de narcotrafiquants du Brésil. Le président Lula a dit être sidéré par le nombre de décès et s'est montré surpris du fait qu'une opération de cette envergure ait été mise en place à l'insu du gouvernement fédéral. La guerre en Ukraine et son spectre sur le continent européen, pas un jour ou presque sans qu'il n'en soit question, alors quand une grande puissance parle d'alléger ses forces sur le front oriental, les interrogations se bousculent. Les États-Unis viennent en effet d'annoncer une réduction de leur présence militaire. Bonsoir Éric Bigala.
Bonsoir Mathieu.
Éric, déploiement, redéploiement plutôt d'une brigade de l'armée américaine qui concerne en tout premier lieu la Roumanie.
Oui, alors il ne s'agit pas d'un retrait américain du flanc est de l'OTAN, mais d'un ajustement, a précisé cet après-midi le Pentagone dans un communiqué. Dans le détail, la deuxième brigade de la prestigieuse 101e aéroportée, qui devait être remplacée en Roumanie par une autre brigade américaine ces prochaines semaines, ne le sera pas. Cela fait environ un millier de soldats américains en moins sur ce flanc est de l'OTAN. Reste que la présence américaine en Europe est toujours plus musclée qu'elle ne l'était avant l'invasion russe de l'Ukraine. Cette brigade américaine en Roumanie avait d'ailleurs été ajoutée au dispositif juste après l'attaque russe de février 2022, et ce à des fins de réassurance, comme on dit dans les états-majors. Et son redéploiement ailleurs en Europe, en Asie ou même aux États-Unis avait déjà été envisagé, et ce dès 2023, sous l'administration Biden. L'ajustement américain est donc dans les tuyaux des planificateurs du Pentagone depuis quelque temps déjà. Pour ce qui est de la Roumanie, d'ailleurs, le dispositif américain militaire demeure très solide. L'US Air Force est toujours présente sur la base aérienne, sur une base aérienne roumaine sur les côtes de la mer Noire, une base qui est systématiquement agrandie et modernisée depuis 2024. Les États-Unis ont aussi en Roumanie l'un des deux seuls dispositifs antimissiles balistiques et antimissiles haute altitude existants en Europe, la plateforme Aegis Ashore. Quant aux troupes de l'OTAN au sol, présente en Roumanie. Elles viennent d'être ces dernières semaines très sérieusement renforcées, 2600 hommes, principalement des Français, avec des matériels lourds, chars Leclerc, canons César. A priori, ces renforcements n'opéreront en Roumanie que le temps de quelques manœuvres ou exercices, mais ils pourraient aussi y demeurer un peu plus longtemps, par exemple, pour prendre la place de cette deuxième brigade américaine aujourd'hui sur le départ.
Merci à vous, Eric Biegela. Une variante, cette fois, de la guerre dite asymétrique. Elle ne se joue pas sur le champ de bataille. Elle a pour finalité la déstabilisation de l'adversaire. Elle fait partie des hypothèses solides émises par celles et ceux qui suivent le procès dit des mains rouges. Depuis le début de l'après-midi, quatre hommes de nationalité bulgare comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont accusés d'avoir tagué en mai 2024 le mémorial de la Shoah. Il faut rappeler là que le symbole des mains rouges renvoie au lynchage de soldats israéliens à Ramallah, en Cisjordanie, en 2000. Il y a dans cette affaire beaucoup de variables qui invitent à se tourner vers Moscou. Moscou, on le sait, qui fait de Paris une cible privilégiée compte tenu de son soutien renforcé à Kiev. Professeur des universités en géographie à l'Institut français de géopolitique, Kevin Limonier suit de très près le développement de ces opérations et leur mécanique. Il répond à Adrien Beck.
Il y a vraiment ici la recherche d'avoir des opérations pas chères. Ça, c'est très important, parce que les Russes n'ont pas tant de moyens que ça à mettre là-dedans pour l'instant. Et surtout, qu'ils n'éveillent pas la vigilance des services de contre-espionnage français. Et pour ce qu'on en sait, aujourd'hui, une nouvelle stratégie de la Russie consiste soit effectivement à passer par des partis politiques, des groupuscules politiques qui sont directement ou indirectement connectés à Moscou ou aux intérêts russes. Et d'autre part, ça peut être aussi via la messagerie chiffrée Telegram, où on sait qu'aujourd'hui, la Russie a mis en place donc tout un système de recrutement de personnes en Union européenne. Il y a eu une affaire, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, de recrutement de mineurs, par exemple, au Royaume-Uni, qui ne savaient absolument pas qui étaient les commanditaires qui leur demandaient de faire, je ne sais plus trop quelle action, mais voilà, pour quelques centaines de livres, quelques centaines d'euros.
Précisément pour ce qui est des commanditaires, est-ce que quand on dit c'est les services de secret, les services de renseignement russes, on est dans le vrai ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Est-ce qu'il y a une galaxie peut-être de commanditaires potentiels?
Pour ce qu'on en sait, encore une fois, puisque ici on est quand même dans un domaine extrêmement nébuleux, mais les données que nous avons aujourd'hui montrent quand même qu'il y a une coordination éventuelle par les services de renseignement russes et notamment ce qu'on appelle le GRU, qui sont en fait les services de renseignement militaire de la Fédération de Russie. Mais il y a tout un tas d'autres acteurs qui peuvent être impliqués. Je pense notamment à une entreprise russe qui s'appelle la Social Design Agency, notamment responsable en France d'une vaste opération de désinformation qui s'appelle l'opération Doppelganger. Il y a des liens entre cette entreprise qui est spécialisée en fait dans l'influence et la désinformation en ligne et donc les opérations qui sont menées sur notre territoire. Donc moi, je parlerais plus d'un écosystème plutôt que d'une galaxie parce que c'est devenu un business aussi en Russie. Vous avez des gens qui sont payés pour avoir ce genre d'idée. Ils passent des marchés publics avec l'État pour avoir ce genre d'idée. Et après, on voit par qui et par quel canal on va passer concrètement pour mener à bien l'opération.
Kevin Limonier, professeur des universités en géographie. Élections législatives aux Pays-Bas aujourd'hui. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à ce soir 21h. Le score de l'extrême droite. Il sera notamment observé de près, tant cette élection a valeur de test pour toute l'Europe confrontée à la montée des populismes. Son leader charismatique, Geert Wilders, s'est imposé comme une figure incontournable du paysage politique néerlandais, mais d'autres personnalités lui font désormais concurrence. À Amsterdam, Fabien Cazou.
Avec son sourire éclatant et ses cheveux peroxydés qui lui valent d'être surnommé le Trump néerlandais, Geert Wilders, 62 ans, n'a quasiment aucune chance d'être le prochain Premier ministre néerlandais. En raison de l'émiettement de l'offre politique aux Pays-Bas, aucun parti ne peut prétendre à lui seul former un gouvernement sans avoir besoin d'alliés. Or, ceux de la précédente coalition gouvernementale, de droite et du centre, qui ont renouvelé leurs dirigeants depuis 2 ans, ont clairement dit qu'ils ne voulaient plus travailler avec lui, après qu'il a fait éclater en juin dernier le fragile accord politique qui les liait. Au centre-gauche, l'ancien vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, 64 ans, espère pouvoir créer la surprise. Père du pacte vert européen, cet homme politique expérimenté cultive son image de rassembleur. Il pourra sans doute compter en cas de coalition sur le soutien du jeune Rob Jetten à la tête de notre parti de centre-gauche, ce candidat de 38 ans, engagé sur les questions de climat et de droits sociaux, homosexuel revendiqué, a bénéficié de bons sondages d'opinion ces derniers jours.
Sur les marchés financiers, la domination de Nvidia vient d'atteindre un nouveau paroxysme. Le fabricant américain de puces électroniques est devenu la première entreprise à valoir plus de 5 000 milliards de dollars. 5 000 milliards de dollars. Elle bénéficie de la santé de la filière de l'intelligence artificielle. Son action s'est en effet envolée de plus de 5% après une annonce faite par une autre entreprise, OpenAI. Bonsoir Valentin Gris.
Bonsoir Mathieu.
Valentin, le spécialiste des modèles d'intelligence artificielle, a changé ses statuts et renouvelé son entente avec Microsoft, une manière de s'émanciper, mais aussi de développer ses horizons économiques.
Oui, OpenAI s'éloigne définitivement de ses origines fin 2015 quand elle naît en tant que structure à but non lucratif chargée de créer une IA qui puisse bénéficier à tous. Déjà en 2019, elle opérait un changement de ton. Il fallait du matériel pour entraîner les modèles, notamment le futur ChatGPT. Microsoft accourait et lui accordait 1 milliard de dollars. Au passage, OpenAI créait une filiale à but lucratif. Et hier, c'est tout le puzzle qui se met finalement en place. L'entreprise pilotée par Sam Altman est un groupe à but pleinement lucratif, placé sous la houlette d'une simple fondation. Elle maintient l'ambiguïté sur les méfaits potentiels de l'IA, mais acte son passage dans une logique de profit, selon Valentin Goujon, doctorant en sociologie au Media Lab de Sciences Po.
Les enjeux sont très concrètement économiques, puisque en fait, Déjà en 2019, le constat notamment que faisait Altman, en fait, c'était qu'une structure à but non lucratif ne permettait pas donc d'atteindre précisément la mission que s'était fixée OpenAI, et puis en fait, plus concrètement, voilà, de développer les produits et de conquérir des parts de marché contre ses concurrents.
Le groupe revoit aussi sa relation avec Microsoft, son premier soutien, devenu un partenaire très, trop exclusif. Il conserve 27% des parts, l'accès au modèle d'IA et sécurise 250 milliards de dollars de contrats. Mais la start-up pourra lever des fonds ailleurs pour étancher sa soif et contracter avec d'autres, comme Oracle, à qui elle vient d'acheter pour 300 milliards de dollars d'infrastructures avec le soutien de la Maison-Blanche et de son projet Stargate, qui doit implanter des centres de données partout dans le monde. OpenAI est devenue une place forte de la tech mondiale, capable à elle seule de booster les résultats en bourse de Nvidia et des entreprises spécialisées, sans être cotée elle-même. Et tout cela malgré son impact environnemental, malgré son absence surtout de résultats financiers pour l'instant. OpenAI n'a jamais été rentable et n'estime pas pouvoir l'être avant 2029.
Merci à vous, Valentin Gris. Il est 18h15, vous écoutez le journal de France Culture. En France, le débat parlementaire sur la fiscalité ne peut pas être déconnecté de celui sur l'attractivité et la croissance française, fait valoir le Premier ministre Sébastien Lecornu devant le Sénat après l'adoption à l'Assemblée de taxes visant les grandes entreprises et dans l'attente du débat sur la taxe Zuckman. Et le débat sur le changement climatique et les transitions ad hoc à imaginer saurait-il être déconnecté du débat sur le budget? Une publication du Lancet livre, comme s'il le fallait, des indicateurs alarmants en la matière. La combustion d'énergie fossile ne nuit pas qu'à la planète, mais aussi nous nuit à nous, les êtres humains. Le dernier rapport du Lancet, publié aujourd'hui, révèle les chiffres, en effet, des effets néfastes sur la santé humaine, des vagues de chaleur et de la pollution. Bonsoir, Azaïs Perronin.
Bonsoir.
Azaïs, quel constat, au juste, dresse ce nouveau rapport?
Un constat préoccupant, macabre même, puisque pour la première fois, il chiffre le nombre de morts directement provoquées par la chaleur ces dernières années. 546 000 décès par an entre 2012 et 2021. C'est bien plus qu'il y a 30 ans, relève Sophie Zopa, chercheuse en chimie de l'atmosphère.
Ce qui est important dans cette publication du Lancet, c'est qu'il montre l'augmentation de ces décès, effectivement, une augmentation de 63% depuis les années 90. La publication va plus loin, elle montre les augmentations de maladies vectorielles, par exemple, également sur l'affaiblissement de la disponibilité en alimentation ou l'augmentation des inondations qui induisent aussi des problèmes de mortalité et de maladies.
La hausse des températures, la multiplication des sécheresses favorisent aussi les feux de forêt. Et l'étude apporte cette donnée nouvelle, les décès dus à la pollution liée aux fumées. C'est ce qu'explique Rémi Slama, directeur de recherche à l'INSERM.
Ces feux de forêt génèrent notamment des particules fines, et l'estimation est qu'il y a plus de 150 000 décès attribuables à ces particules fines en 2024. C'est un tiers de plus qu'au tout début du siècle. Par ailleurs, la pollution, elle est aussi générée par la combustion des énergies fossiles qui sont le principal contributeur du changement climatique. Et là, l'impact, il est encore plus important. C'est-à-dire que la combustion des énergies fossiles, c'est de l'ordre de 2,5 millions de décès chaque année.
Il note toutefois quelques signes encourageants. La part des énergies renouvelables dans la production d'électricité continue de progresser. C'est particulièrement vrai dans les pays scandinaves ou au Portugal.
Azaïs Perronin, une nouvelle accélération dans l'affaire du casse du musée du Louvre qui a fait le tour du monde depuis la semaine dernière. La procureure de Paris a fait le point sur l'enquête ce soir dans une conférence de presse qui vient tout juste de s'achever. Bonsoir Mathilde Cariou.
Bonsoir à tous.
Mathilde, fin de garde à vue pour les deux suspects arrêtés samedi dernier, tous deux qui ont partiellement reconnu les faits devant les enquêteurs.
Oui, ils sont actuellement entendus par les magistrats pour être mis en examen pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Leur placement en détention provisoire a également été demandé. Ils risquent jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Concernant leur profil, on en sait désormais un peu plus. Le premier est un homme de 34 ans, d'origine algérienne, déjà connu de la police pour un fait de vol. C'est lui qui avait été arrêté à l'aéroport samedi dernier, alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour l'Algérie. Le deuxième est un peu plus âgé, 39 ans, né à Aubervilliers, et lui est connu des autorités pour plusieurs vols aggravés. Il est actuellement sous contrôle judiciaire et c'est son ADN qui a été retrouvé sur la vitre du musée. Sur le déroulé du cambriolage, La procureure dévoile assez peu d'éléments pour ne pas entraver l'enquête. On sait désormais que le monte-charge avait été volé quelques jours plus tôt dans la commune de Louvres, que les cambrioleurs étaient quatre et que des traces d'essence et un jerrican ont été retrouvées près du véhicule. Enfin, les bijoux restent toujours introuvables, à l'exception de la couronne de l'impératrice qui était tombée au cours de la fuite. Pour les autres, je veux garder l'espoir qu'ils seront retrouvés, dit ce soir la procureure. Elle rappelle que quiconque les achèterait se rendrait coupable de recel. Et de conclure, il est encore temps de les rendre.
Merci Mathilde Cariou. Quelques mots de la méthode demain matin pour refermer ce journal. Ondées résiduelles sur les Vosges, le Jura et les Alpes du Nord. Au sud de la Loire, les grisailles et nuages bas sont très présents avant une évolution favorable et le retour d'éclaircies. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia, à la technique Noé Chaban.